Bonjour à tous. J'ai bien aimé la première partie, même si Manu m'a bouffé ma conclusion, mais ça, il n'a pas fait exprès, il n'en savait rien. Et je voudrais qu'on reste sur cet émerveillement, au sens... nous, à cause d'une culture qui est largement empreinte de cartésianisme, on a tendance à beaucoup raisonner. Et je suis le premier à devoir subir cette accusation, parce que c'est vrai qu'on aime bien faire travailler nos méninges. Et même le message biblique, on a tendance à le raisonner parce que c'est notre réflexe naturel. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des exposés bibliques qui font appel au raisonnement. Et Jésus a été le premier à dire à ses disciples, comprenez ce que je fais. Lui qui est arrivé dans un environnement où au contraire on ne raisonnait rien et où on apprenait tout, lui a été innovateur, encore une fois, dans l'enseignement qu'il a donné en disant, réfléchissez, comprenez ce que je fais, comprenez ce que je dis. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne ferez pas mieux que ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire vous vous méprendrez sur le message que Dieu donne aux hommes et sur son projet. Donc raisonner, oui, mais pas seulement. Pas seulement parce que de temps en temps, le message biblique n'appelle pas au raisonnement, mais il appelle à l'émerveillement. Et... parfois, tout simplement, alors, vous me direz, c'est contradictoire, parce que prendre la parole pour environ une demi-heure, si j'y arrive, en disant, il n'y a rien à raisonner parfois, il faut contempler. Donc, c'est effectivement un peu contradictoire. Mais je voudrais quand même relayer cet appel à l'émerveillement. Alors, il y en a un appel à l'émerveillement qui m'émeut tout particulièrement, il est dans la première lettre de Jean au chapitre 3, donc première lettre de Jean, chapitre 3, le début du chapitre, enfin le premier verset du chapitre. 1 Jean, chapitre 3. Et Jean est, j'allais dire, plus apte que d'autres à ça, parce que Jean, on étudie, comme l'a rappelé Manu actuellement, tout l'évangile de Jean, là on n'est pas dans l'évangile, on est dans la lettre, mais c'est un sentimental, et donc c'est tout à fait conforme à sa personnalité de fonctionner comme ça. « Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » On a malheureusement tendance à banaliser, ça aussi, c'est une seconde nature. Quand on fait les choses pour la première fois, c'est merveilleux, extraordinaire. Quand on les voit pour la première fois, c'est extraordinaire. Et puis, quand ça se répète tous les jours, l'extraordinaire se dilue dans le banal. Il y a deux exemples comme ça. Contrairement à ce qui devrait peut-être se produire, on ne vit pas tous les jours de sa vie de couple le jour de son mariage. On ne revit pas ça comme une fête. Tout simplement parce que, le jour où on se marie, c'est extraordinaire, et puis le lendemain, c'est extraordinaire aussi, la semaine d'après, un mois, deux mois, trois mois, 10 ans, et puis comme j'ai l'habitude de dire, c'est les 30 premières années qui sont les plus difficiles, mais c'est vrai que de toute façon, ça ne peut pas être vécu comme une fête à chaque fois. Et pour prendre un autre exemple, moi j'ai travaillé 2 ans et demi à Paris, à côté d'un espèce de truc pointu en ferraille, devant lequel j'ai arrêté de m'émerveiller, alors qu'il y avait des gens qui venaient de la planète entière et qui disaient « Ah, la Tour Eiffel, bon, très bien. » Moi, je passais à côté sans la regarder, parce qu'au bout de 2 ans et demi, vous ne la regardez plus, la Tour Eiffel. Et c'est normal. Mais quand il s'agit de ce que Dieu a fait pour nous, franchement, est-ce qu'on a le droit de banaliser? Est-ce qu'on a le droit de prendre l'habitude et de ne plus s'arrêter? Parce que la Tour Eiffel, je veux bien. Mais ce qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire nous donner son identité, quand même. au bout d'un an, au bout de 10 ans, au bout de 30 ans, ça a quand même de quoi nous émouvoir, quoi. Et donc, là, Jean écrit, regardez ça. Arrêtez-vous 2 secondes et regardez la grandeur de ce qu'il a fait pour nous. Et ça, ça suffit à faire un culte. Alors, je ne sais pas m'arrêter là, je devrais. Alors, je vais quand même donner quelques explications parce que c'est vrai que le raisonnement, ça aide aussi à prendre la mesure des choses. Il a fait de nous ses enfants. Comment, non pas on en est arrivé là, mais comment il en est arrivé là. Alors, comment on est passé, et puisqu'on étudie l'évangile de Jean, je vais rappeler que dans ce qu'on appelle le prologue de Jean, c'est-à-dire le début, il y a la source de cet émerveillement, c'est le verset 12 de cette fois du premier chapitre, mais de l'évangile de Jean. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés du sang, ni du désir de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Voyez de quel amour il a été capable. Comment on est passé, parce que quand je dis nous donner son identité, c'est pas une formule. Et la Bible nous enseigne qu'on passe pour lui. Parce que je voudrais, on a trop l'habitude de parler de nous. C'est pas non plus une mauvaise chose. La Bible parle beaucoup de nous, les hommes. Mais c'est quand même lui qui doit être au cœur de nos regards, de nos contemplations. Et donc, on parle souvent de notre identité en Christ. Bon, c'est presque devenu un sujet bateau. Parlons de la sienne, si vous voulez bien. Parlons de la sienne. Alors, comment on est passé de l'Exode, ce fameux passage que tout le monde connaît, Exode chapitre 3, verset 13. Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, voilà, je vais aller vers les fils d'Israël et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me disent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Dieu dit à Moïse, et là, il y a un nom propre que vous connaissez, enfin qu'on représente par un tétragramme, Dieu donne son nom propre, qu'on prononce Yahweh peut-être. Et il dit, tu parleras ainsi au fils d'Israël, Yahweh m'a envoyé vers vous. Je le prononce comme ça, on n'est pas sûr de la prononciation, pour une raison simple, c'est que au fil du temps, ce nom-là est devenu tellement sacré que plus personne n'a osé le prononcer. Et qu'il arrivera même un moment où plus personne n'osera l'écrire. Et donc, à la place, on prononcera un nom commun, qui est le nom Seigneur, Adonai, en hébreu. Et même dans les écrits, c'est un peu compliqué, mais on superposera pour que celui qui lit ne prenne surtout pas le risque de prononcer le nom sacré, on superposera le nom commun au nom propre, Adonai. Et il semblerait même que la superposition des deux, puisque c'est en fait les voyelles de l'une, enfin ça finit par être dans certains textes les voyelles de l'une sur les consonnes de l'autre, c'est ce qui a donné la prononciation Jéhovah. Jéhovah n'étant que la contraction de Yahweh et d'Adonai. Encore une fois, les consonnes de l'une et les voyelles, mais peu importe, c'est pas ça mon propos aujourd'hui. Comment on est passé de ça, et je vais développer, pour autant qu'on le puisse en tant qu'être humain, je vais développer ce qu'il y a derrière ce nom-là. Comment on est passé de ce nom-là à son autre nom, l'autre nom qu'il se donne au bout de l'histoire. Et ça, c'est dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, le début aussi. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera, et là il y a de nouveau un nom propre, et un nom propre qui concentre l'expression Dieu avec eux. Il sera Dieu avec eux. Il va s'appeler Dieu avec eux, alors qu'il s'appelait Yahweh. Comment on passe de l'un à l'autre ? Alors, la réponse, elle tient en un mot. Elle tient en un mot. Et ce mot-là, vous le savez, nous le savons tous, il est dans Ésaïe, au chapitre 7, où il y a exactement la même expression, concentrée. Alors, évidemment, dans l'Apocalypse, c'est en grec. Là, dans Ésaïe, c'est en hébreu, bien sûr. Mais c'est la même chose. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe, voici que la jeune femme est enceinte et qu'elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom de, en hébreu, Dieu avec nous. Emmanuel. Alors, évidemment que pour passer de l'un à l'autre, pour passer de Yahweh à Dieu avec nous, il fallait le centre de l'histoire de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire cet enfant dont il est question ici, bien sûr. Approfondissons les choses si vous voulez bien, parce que s'émerveiller, ça suppose qu'on sache à quel point. Encore une fois, Jean dit, voyez de quel amour il a fait preuve. Il faut qu'on sache jusqu'où ça va. Yahweh, c'est, vous le savez sans doute, une forme extrêmement particulière, on peut dire unique d'ailleurs, du verbe être. C'est pour ça qu'on traduit « je suis ». Alors, il y a ceux qui traduisent « je suis celui qui suit », ce qui est un peu lourd, vous l'admettrez. En tout cas, c'est une forme particulière du verbe être, alors, qui suppose deux choses. Une chose qui est évidente, que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'être au-delà du temps. Pour ça qu'on traduit, enfin, on appelle Dieu, quand on donne son nom propre. Alors, il y en a qui se sont amusés à compter 6500 fois quand même, dans toute la Bible, le nom. Et ce nom-là veut dire que l'être qui le porte est au-delà du temps. Le temps n'a pas de maîtrise sur lui. Alors, c'est très compliqué, parce que de la même manière que c'est compliqué, cette forme-là du verbe être, elle est intraduisible en français. Parce que quand vous dites « je suis », ben, ça veut dire « je suis maintenant ». Ça veut dire que vous existez, on va y venir tout à l'heure. Mais moi aussi, là, maintenant, tout de suite, dimanche matin, 11h15, je suis. Bon, ça n'a évidemment rien à voir avec son « je suis » à lui. Parce que moi, je suis prisonnier du temps. J'ai un commencement et une fin, en tant qu'être humain. Lui, non. Donc c'est compliqué à traduire. Et alors, du coup, même en grec, c'est compliqué à traduire. Et quand il va s'agir de le traduire en grec, alors, dans le Nouveau Testament, évidemment, il n'y a pas besoin de traduire, parce qu'on parle de Dieu, donc on traduit Dieu, on dit Dieu en grec. Mais quand on ne va plus pouvoir faire autrement que de traduire ce nom, là, ils vont se gratter la tête, ceux qui écrivent en grec, et ils vont dire, bon, comment on fait pour traduire ça ? Il n'y a pas plus de mots en grec qu'il y en a en français. Donc, ils vont étaler la notion. C'est-à-dire, et ça, c'est dans... là, par exemple, dans l'Apocalypse, parce que quand c'est Dieu qui parle et qui dit son nom, ben là, il faut bien écrire quelque chose. Et donc, en grec, quand je dis on va l'étaler, c'est-à-dire on va marquer la supériorité sur le temps en disant c'est je suis mais j'étais et je serai. Donc, par exemple, vous avez ça dans le premier chapitre de l'Apocalypse, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Bon, ça, c'est facile, c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec pour montrer la plénitude. Et je suis celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon en grec. C'est ça. Il n'y a pas d'autre façon en grec de traduire le mot Yahweh pour le rendre à peu près complètement, de rendre à peu près complètement la notion que de décliner, ou plutôt de conjuguer le verbe être aux trois temps, passé, présent, futur. Et donc, vous voyez à quel point c'est compliqué de rendre le fait qu'il y a un absolu de l'être par rapport au temps. Mais bon, ça c'est connu. Et donc, j'allais dire, c'était une parenthèse. Ce qui l'est moins, et ce qui est un peu moins simple, je l'avoue, c'est que dans ce nom est énoncé aussi la, alors c'est alambiqué comme formule, mais je vais m'expliquer, la prééminence de l'essence sur l'existence. Essence, rien à voir avec le carburant, bien sûr, c'est essence, substantif de être. Prééminence de l'essence sur l'existence. Nous, on est, qu'on le sache ou non, qu'on en soit conscient ou non, à l'inverse de ça. La réponse intelligente à « comment tu t'appelles ?» c'est « je ne m'appelle pas, ce sont les autres qui m'appellent ». Alors, vous pensez que c'est une boutade, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre identité, pensez à votre nom, pensez à votre prénom, notre identité, elle nous vient des autres. Elle ne vient pas de nous. C'est quelqu'un d'autre qui nous appelle. C'est pas nous qui nous appelons. Alors, bien sûr qu'on répond comment tu t'appelles, on donne notre nom. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va évidemment bien au-delà de l'appellation, de l'étiquette qu'on nous colle ou qu'on se colle. C'est ce qu'on est. Ce qu'on est dépend des autres. Beaucoup plus que de nous-mêmes. L'essence, c'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. C'est, j'allais dire, ce qu'on est à la naissance, sans jeu de mots. Mais que chacun ici s'examine, et ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans sa façon de fonctionner, c'est bien sûr bien davantage tributaire du vécu que du capital génétique. La preuve, c'est que si on m'avait pris à la naissance et qu'on m'avait déposé en Chine ou au Nigeria ou en Amérique du Sud, je ne serais évidemment, ou en pleine jungle, ou à New York, je ne serais évidemment pas du tout le même. Je n'aurais pas les mêmes, alors, pas la même langue, bien sûr, mais pas les mêmes manières de fonctionner, pas les mêmes représentations, comme on dit en psychologie, etc. Autrement dit, ce que je suis doit beaucoup plus à mon environnement qu'à ce que j'ai au départ d'intimement personnel. Eh bien, c'est ça la différence entre l'essence et l'existence. C'est que pour un être humain, l'être doit beaucoup plus à l'existence, c'est-à-dire à son environnement, qu'à son essence. Et donc, il y a même, enfin, on n'est pas là pour ça, mais il y a même un courant de pensée philosophique dont vous avez entendu parler inévitablement, qui s'appelle l'existentialisme. Avec la fameuse phrase de Sartre, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vit qui nous détermine et pas l'inverse. On est ce qu'on est à cause de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit, et non pas on vit et on a vécu en fonction d'un capital d'essence désincarné. Ça, c'est l'être humain. Notre Dieu est à l'opposé de ça. Et c'est écrit dans son nom. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est que lui ne dépend pas pour ce qu'il est de son vécu. Tout ce qu'il... Donc, ça a plusieurs conséquences. C'est que tout ce qu'il fait, il le fait gratuitement. Il le fait sans que ça... Alors, je vais expliquer ça avec l'exemple précisément de Jésus. Parce que je disais, l'être humain, c'est ça, et Dieu, c'est ça. C'est peut-être un peu confus. Jésus, qui est les deux, on dit de lui les deux choses. Alors, quand on parle, d'ailleurs, c'est le même auteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui dit au chapitre 5, donc ça c'est l'existence, et l'existence comme déterminant de l'être. Donc ça, c'est son côté humain. Chapitre 5, verset 8. Tout fils qu'il était, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit jusqu'à son propre accomplissement, il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel, ayant été proclamé par Dieu grand prêtre à la manière de Melchisédek. Ce qui m'intéresse ici, c'est que on dit tout fils qu'il était, puisqu'il était humain, son existence a déterminé son essence. C'est-à-dire, il est obéissant à cause de son vécu. Ça, c'est très humain. Il est devenu obéissant. Il a appris. Il est devenu obéissant à cause de son vécu. Et ça pourrait paraître contradictoire avec ce qu'on dit du même Jésus, mais en tant que Dieu, cette fois. Donc, même auteur, chapitre 13, verset 8. Le même qui dit, il a appris l'obéissance par les souffrances, écrit, en parlant cette fois de Jésus-Christ dans sa divinité, Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, il le sera pour l'éternité, et là, clairement, il l'assimile à Dieu, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, un être divin au-delà du temps. Alors, comme je le disais, nous, on se construit dans la relation, du coup, puisque notre existence est déterminante de notre être, il faut avoir un vécu pour devenir ce qu'on est. Et Dieu, ça n'est pas son cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la relation, notamment avec nous, il n'a rigoureusement rien à gagner. Et Dieu, c'est, au sens le plus profond du terme, le seul être à agir complètement gratuitement. C'est pour ça que la notion de don a un relief tout particulier dans la Bible quand il s'agit de Dieu. C'est que c'est le seul pour qui c'est possible. Et la psychologie moderne l'a confirmé en disant, alors ça en a déçu beaucoup, tous ceux qui sont dans l'humanitaire, vous faites ça pour quelque chose. Comme disent certains psychologues, une formule assez célèbre, vous y trouvez votre compte. Dieu, quand il a choisi d'entrer en relation avec moi, il savait qu'il n'y trouverait pas son compte. Il n'a rien à y gagner. Il l'a fait uniquement pour moi, pas pour lui du tout, et uniquement par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et ça, Jésus, parce qu'il est Dieu, en était capable, et lui seulement. Parce que on a beau dire, et moi je l'entends souvent dans les discussions que j'ai, mais il n'est pas le seul à s'être sacrifié. Oui, d'accord. Il est le seul à s'être sacrifié gratuitement, au sens de la réalité du don. La deuxième conséquence de ça, c'est que le partage, vous voyez de quel amour il nous a aimés, il a fait de nous ses enfants. Le partage de son identité, ça ne peut consister qu'à nous amener vers son identité à lui, et surtout pas l'inverse. Et c'est ce qui différencie Dieu des idoles. C'est que les idoles, on les configure en fonction de ce qu'on en attend. Et une idole, c'est facile à reconnaître. Et parfois, mon idole, évidemment, je ne l'appelle pas idole, bien sûr, je l'appelle Dieu. Évidemment. comme ça, ça passe mieux. Je ne vais pas l'appeler... voilà, je ne vais pas lui donner un nom exotique de chef indien. Voilà. Bien sûr que je vais l'appeler Dieu. Mais si le Dieu que j'invoque, bah, pour dire les choses simplement, c'est moi, mais en mieux. C'est moi, mais en plus sympa, en moins énervé au volant, machin. Mais non, mais... Alors là, il n'y a pas de doute, c'est une idole. C'est une idole, ce n'est pas le vrai Dieu. Et il faut souvent que je m'interroge en disant, mais le Dieu que tu es en train de prier, là, écoute un peu ce que tu lui demandes. Tu n'es pas en train de prier une idole, c'est-à-dire toi en mieux, toi ce que tu voudrais être. Or, à cause de ce qu'il est dans son essence même, la fonction de la relation, c'est que je devienne son enfant, c'est-à-dire que il me transmette son ADN et pas l'inverse. C'est pas possible à l'envers. Un fils ne peut pas donner son ADN à son père. C'est pour ça que c'est l'image de l'enfant qui est prise. C'est que il faut qu'il nous amène jusqu'à lui. Et il n'est pas question, sinon c'est de l'idolâtrie, et sinon c'est pas lui. Il n'est pas question que il fasse alors, un pas vers nous, oui, mais un pas pour devenir ce qu'on est, sûrement pas. Sûrement pas. Et effectivement, Esaïe l'a dit, à partir de là, il n'y a qu'un seul vecteur possible de la relation. Voyez de quel amour il nous a aimés, il a fait de nous ses enfants. Et comment est-ce qu'il a fait de nous ses enfants? Comment est-ce qu'il est devenu, de Yahweh qu'il était, Dieu avec nous? Eh bien, parce que son fils a porté ce nom-là, Dieu avec nous. Alors, vous connaissez cette phrase de... C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et moi, je tiens à... Même si elle paraît bizarre, il faut le traduire comme ça parce que ça a du sens. Pas il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Et il n'y a que comme ça que c'était possible de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire que dans la création, et le prologue de Jean, puisque... Jean a quand même osé écrire un bouquin qui commence comme la Bible, à l'époque. Mettez-vous un peu, les gens de cette époque-là ont aussi une Bible, qui est un tout petit, qui est un chouïa plus courte que la nôtre. Cette Bible commence par « Au commencement », et donc il y a un type assez gonflé, au 1er siècle, pour écrire, commencer son livre par « Au commencement ». Et « Au commencement » était le logos, comme il l'écrit en grec. Alors ça aussi, c'est un terme qui demanderait à... Mais quand on dit on est une nouvelle création, vous m'avez entendu dire ça 10 fois, peut-être 100 fois, ça fera 101, mais il faut quand même que je le rappelle. Au commencement, Dieu dit lumière, et fut lumière. Voilà comment c'est écrit en hébreu. Ben, Dieu, il est dans Dieu, mais il est dans dit, et ça c'est Jean qui l'explique, parce que ce que Dieu prononce, c'est-à-dire le vecteur de ce qu'il va créer, c'est aussi lui. C'est pour ça que Jean dit, ce vecteur-là, le logos, la parole, était tourné vers Dieu, et c'était Dieu. Et Dieu est lumière, et donc ce qu'il envoie, c'est-à-dire les trois éléments, c'est Dieu. Dieu dit lumière, il y a de la divinité dans les trois mots, dans Dieu, dans dit et dans lumière. Et donc tout ce qu'il va créer, il va regarder si, pour reprendre mon exemple, ça porte bien son ADN, et si ça porte son ADN, il va dire c'est bon. C'est ça que ça veut dire c'est bon dans la Genèse. C'est bon, c'est-à-dire effectivement ça me correspond. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Nos enfants, ce n'est pas nous, mais c'est notre ADN. Et donc, quand Dieu va reconnaître son ADN, je parle de manière imagée, mais c'est pour bien fixer les idées, parce que je me suis fait expliquer avant de partir, enfin, par Dominique qui m'a dit « te lance pas trop là-dedans, parce que tu comprends rien ». C'est vrai que moi, la génétique, c'est pas trop mon truc, donc je vais pas aller chercher des choses trop compliquées, mais j'ai quand même cru comprendre que nos enfants, c'est pas nous, mais c'est quand même par l'ADN, dans un lien tout à fait particulier, qu'on a avec personne d'autre. Et donc, quand Dieu crée, il fait ça aussi. C'est-à-dire, il dit, allez, les oiseaux, les éléphants, hein, est-ce que ça porte mon ADN ? Ça ne veut pas dire que l'éléphant, c'est Dieu. On n'est pas dans une religion orientale. Ça veut dire que tout ça, la Bible dit dans d'autres endroits d'une autre manière, ça porte la gloire de Dieu. Ça manifeste la gloire de Dieu. J'aime beaucoup l'explication. Alors, on va chercher l'intello, on ne va pas le rater, comme d'habitude. Aux Romains, Paul écrit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles du Dieu éternel sont devenues visibles. Éternelle puissance et divinité sont visibles. » Et elle sert à ça, la création. Elle sert à ce que, en ayant des yeux, on ne peut pas voir Dieu, c'est entendu, mais qu'on voit plus que la trace de lui, son ADN. Dans l'ADN de l'ultime élément de la création, il y avait, et c'est ce qui faisait son statut particulier d'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme, il y avait l'ingrédient supplémentaire que Dieu a osé transmettre à la créature qui lui était la plus chère, c'est la liberté. Et la liberté, c'est toujours pour rester sur mon image, oui, je sais, mais comme on dit dans ma profession, le fait de ne rien connaître sur un sujet n'a jamais empêché un avocat d'en parler. Donc, la mutation génétique, la capacité de muter, c'est la liberté qui nous a été donnée par Dieu. En nous disant, si tu l'opères, cette mutation, tu mourras. Puisque l'ADN de la vie, c'est le mien et aucun autre. Si tu décides par ton choix, puisque je t'ai donné la liberté, donc je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir de ne plus être enfant de Dieu. C'est ça qu'a entendu Adam. Enfin, il ne l'a pas entendu, mais c'était implicite. Dans la création d'Adam, et il n'a pas mis très longtemps à s'en apercevoir, et malheureusement nous non plus, parce qu'on est tous des Adams, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, on a le pouvoir d'opérer une mutation génétique qui fait qu'on n'est plus des enfants de Dieu. On n'a plus le même ADN. Et le don de Dieu, c'est de rétablir ça. Et pour ça, il faut qu'il nous ramène à lui. Et pour ça, il fallait que celui, autant la création, je l'ai dit, c'est Dieu qui dit, Dieu dit lumière, donc ça part de Dieu et ça va vers ce qui n'est pas Dieu, ce qui est au départ ténébreux, chaotique, parce que le récit de la Genèse nous apprend aussi, c'est que ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas en Dieu, c'est pas neutre. Il y avait des ténèbres, enfin, je prends la traduction classique, hein, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, c'était chaotique, c'était sans contenu et sans contour, tohu-bohu en hébreu. Ce qui veut dire sans contenu et sans contour. Autrement dit, là où Dieu n'est pas, et là où Dieu ne met rien de lui, c'est le chaos absolu. C'est noir, c'est le mal aussi. On s'interroge beaucoup sur l'origine du mal. Mais l'origine du mal, elle est tout simplement, en toute modestie, pour moi, là où Dieu n'est pas, c'est-à-dire à partir du moment où Dieu laisse un espace, et c'est ça aussi la création, qui n'est pas lui, ben forcément, le mal, virtuellement en tout cas, est là. Et donc, il faut non seulement, toujours pour rester sur mon exemple idiot, j'en conviens, mais il a en tout cas le mérite de me parler à moi, il faut non seulement qu'il y ait quelqu'un qui vienne, parce que moi, je ne vais pas y arriver. à y retourner. Je ne vais pas remonter, je ne peux pas refaire l'histoire. Moi, je suis prisonnier du temps et de l'espace. Donc, il faut que lui envoie quelqu'un qui fasse tout le chemin et qui porte de manière non altérée son capital génétique pour me ramener à lui. C'est ça, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est ce que l'auteur de l'épître aux Éphésiens, lettre aux Éphésiens, Éphésiens, explique. Chapitre 1er, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, c'est-à-dire son projet. Il a été clair avec nous sur ce point. Le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, c'est-à-dire une fois que ça sera fait, les choses seront pliées et l'histoire s'arrêtera. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En grec, puisque chef et tête, c'est le même mot en grec, donc la meilleure traduction, c'est récapituler, parce que dans capituler, il y a capital à tête. Bon. Donc c'est ça, c'est récapituler. Les vieilles traductions traduisaient comme ça, c'est-à-dire ramener tout dans le Christ. Et donc, l'identité, c'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'identité que Dieu me donne, le fait, la possibilité qu'il me donne de devenir enfant de Dieu, ça n'est rien d'autre, rien moins que la possibilité d'être ramené à lui, c'est-à-dire sorti de notre condition humaine, c'est-à-dire du conditionnement de mon essence par mon existence, parce que là, dans mon capital, si je peux parler de capital, il y a un sacré passif. C'est effrayant pour les hommes, et pourtant, tout le monde le sait et tout le monde le dit, c'est effrayant pour les hommes d'être conditionnés par son vécu, quand on y réfléchit. Parce que dans notre vécu, et je peux parler pour vous, puisque c'est forcément vrai, il n'y a que lui, il n'y a que Jésus qui n'est pas concerné par ça. Il n'y a que Emmanuel, pas lui, l'autre, qui n'est pas concerné par ça. C'est que dans notre vécu, il y a un sacré passif. Du coup, on ne peut plus parler de capital. Et donc, on est conditionné en mal aussi par tous nos égoïsmes, par toutes nos rancœurs, par toutes nos amertumes, par tous nos désirs de vengeance, par tous les pardons qu'on n'a pas pu donner, qu'on n'a pas su donner, par tout le mal qu'on nous a fait, par tout le mal qu'on a fait. C'est aussi ça qui nous conditionne en tant qu'être. Et donc, s'il ne change pas ça, on ne peut pas être de la même nature que lui. Voyez de quel amour il a fait preuve en faisant en sorte que nous puissions devenir des enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai encore, j'allais dire, beaucoup à dire. Je vais le faire très rapidement. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de Jean qu'on est en train d'étudier, il superpose les deux éléments essentiels, l'élément divin et l'élément humain. Et à chaque fois qu'il dit, parce qu'il le dit d'une manière très particulière, il ne dit pas juste « je suis ». Comme moi ou vous, bonjour, je m'appelle machin, enchanté. Bon, très bien. C'est pas seulement ça. Quand Jésus, la formule particulière, pour ceux qui connaissent le grec, ego, aimi, c'est une façon de se rattacher à l'identité du Père. Et donc, quand il dit « je suis », il est capable de dire « je suis la lumière », des choses aussi absolues, aussi divines que ça. Vous savez, on l'a étudié, donc je ne cite pas les versets. « Je suis la lumière, je suis la vérité, je suis la résurrection. » Ça, c'est des éléments essentiels. Et puis, il y a aussi, et c'est ça le miracle, c'est ça le cadeau, les éléments existentiels, c'est-à-dire « je suis la porte, je suis le chemin, je suis le berger, je suis le pain. » À chaque fois, vous aurez remarqué, c'est la fonctionnalité qui détermine l'identité. Je veux dire par là que une porte, elle n'est qu'une porte que s'il y a des gens qui l'ouvrent et qui la franchissent. Un chemin n'est un chemin que s'il y a des gens qui le parcourent. Le pain n'est du pain que s'il y a des gens pour le manger. Et le berger n'est vraiment un berger que s'il y a des brebis pour le suivre. Sinon, tout ça n'a aucun sens, aucune réalité même. Et donc, le cadeau de Dieu, c'est de s'identifier à la fonctionnalité du salut, c'est-à-dire n'être que ce qui sert au salut des hommes. Une des autres caractéristiques, je pourrais décliner ça très longtemps, mais encore une fois, je dois aller vite, c'est, et ça aussi, c'est bluffant, c'est que ce sont des choses qui sont offertes aux hommes. Dans un chemin, dans une porte, dans du pain, chez un berger, il n'y a pas de contrainte. Personne ne nous met un revolver sur la tempe pour s'engager dans le chemin, personne ne nous met un revolver sur la tempe pour passer une porte, personne pour manger du pain, personne pour suivre un berger. Simplement, Dieu nous dit, voilà ce que je t'offre, voilà le chemin. Et à chaque fois, parce que vous pouvez vérifier, dans tous les textes, on a l'habitude de les dénombrer à 7, un peu plus compliqué que ça, mais dans les 7 « je suis » de l'évangile de Jean, à chaque fois dans le texte, il y a la notion de vie, c'est-à-dire « je suis le chemin, celui qui vivra, le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte, celui qui passe par moi vivra, je suis le berger, les brebis qui me suivent auront la vie, et je suis le pain, celui qui mange ce pain vivra par moi. » À chaque fois, c'est la notion de vie. Avec effectivement, le corollaire, c'est que à chaque fois, parce que s'il n'y a aucune contrainte, il y a forcément une décision. C'est aussi ça la caractéristique. C'est que quand vous avez devant vous une porte, et c'est ce que Jésus fait en se plaçant devant les hommes, eh bien, vous avez le choix de la franchir ou pas, mais quoi que vous fassiez, vous avez pris une décision. C'est difficile d'expliquer à nos contemporains que le fait de ne pas passer la porte, que le fait de ne pas s'engager sur le chemin, que le fait de ne pas manger le pain et que le fait de ne pas suivre le berger, c'est aussi une décision. Mais c'est la réalité. Et cette réalité, elle est difficile à appréhender pour nos contemporains parce que nos contemporains voudraient bien que ce soit une porte, que ce soit un pain, que ce soit un berger ou que ce soit un chemin parmi d'autres. Mais vous avez compris, nous avons compris, en fonction de ce que j'ai dit avant, qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous mener à Dieu. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout à la mode de dire, vous connaissez le slogan évangélique des années 70-80, un seul chemin. Ce n'est plus du tout à la mode de dire ça. Pas du tout à la mode de dire il y a un chemin qui mène à la vie, c'est Jésus, et tous les autres mènent à la mort. Qu'est-ce que t'es sectaire comme mec ? Il y a une porte. Si on passe celle-là, on est sauvé. Si on la passe pas ou si on en passe une autre, on est perdu. On est mort. Et pourtant, c'est ce que Jésus va dire. Alors, je pourrais multiplier les textes, mais je vais en prendre qu'un ou deux. Dans Jean, on va rester dans Jean, chapitre 6, verset 53. verset 53. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie. Et là, je peux multiplier les textes, mais il dit aux Juifs, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne faites pas ce choix. Parce que, j'allais dire, c'est presque mécanique. C'est pas de la méchanceté de sa part. Si moi j'habitais une maison où tout le monde était accueilli gentiment à condition d'avoir mon ADN, c'est-à-dire que la maison est faite comme ça, si vous n'avez pas mon ADN, vous êtes grillé sur place. Ben, ça serait, alors donc mes enfants peuvent venir, c'est sympa, rentrer, sortir, mes petits-enfants aussi. Vous, par contre, si vous passez la porte, hop, un tas de cendres. Je serai un sale type, sauf si je vous dis, par contre, mon ADN, je vous le donne quand vous voulez, c'est gratuit, qui veut. Vous me demandez mon ADN, je vous le transmets, et après, vous pouvez venir chez moi, rentrer, sortir, tout va bien. Et vous serez bien accueillis, et vous verrez, ce sera la fête. Ben, là, le coupable, c'est pas moi d'avoir une maison comme ça. C'est celui qui veut rentrer quand même, alors qu'il n'a pas accepté mon offre. Et c'est ça la réalité de Dieu. Il nous a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Voyez de quel amour il nous a aimés pour qu'on puisse en arriver là. Et il ajoute, et nous le sommes, c'est-à-dire, c'est la réalité. Alors, il y a beaucoup d'autres choses que j'avais à dire, mais je vais m'arrêter là. Juste quand même, pour que vous soyez convaincus, je pense que vous l'êtes, mais que quand Jésus dit « je suis », le « I go, I me », c'est vraiment rattaché à la divinité. C'est pas juste, encore une fois. J'avais deux textes, le verset 24 du chapitre 8, chapitre 8, verset 24. Non, oui, c'est ça, chapitre 8, verset 24. Donc, c'est pas ça. 8, 24. Oui, c'est, j'y faisais allusion tout à l'heure. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si, en effet, vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il dira alors, mais qui es-tu ? Et un autre texte qui porte une anecdote, c'est pas une anecdote pour ceux qui l'ont vécu, mais qui porte l'indice de ça, c'est que au chapitre 14, verset 6, non pas du tout, chapitre 18, verset 6, pardon, chapitre 18, verset 6, donc Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen ». Il leur dit « Je suis ». Or, littéralement, « Or parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « Je suis », ils eurent un mouvement de recul et ils tombèrent. » C'est pas rien. La puissance qui nous sauve, c'est-à-dire la puissance qui change notre identité génétique pour nous donner celle de Dieu, c'est aussi la puissance qui terrasse le mal, forcément. Et donc, quand Jésus dit « je suis », c'est une main tendue qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, les conséquences sont gigantesques. Ils eurent un mouvement de recul et ils tombèrent. Ou ils obtinrent, pour reprendre le prologue, la possibilité de devenir des enfants de Dieu en fonction du choix opéré. Alors, Heureusement, on va gagner du temps. Manu a dit déjà tout ce qui part à partir de maintenant. Et donc, je finis par... C'était dans 1 Jean... Oui, mais d'abord, donc, j'ai commencé et je finis par 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Donc je disais « s'émerveiller », et donc versets 2 et 3, la suite c'est, donc je relis parce que c'est un texte tellement beau, « Voyez de quel grand amour le Père nous a fait donc pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, il n'a pas découvert Dieu, mais bien aimé, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. » Et là, il y a deux choses, il y a deux façons de s'émerveiller. Il y a l'adoration, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Parce que l'adoration, c'est des mots. Et moi, j'encours trop souvent, nous encourons trop souvent le même reproche que celui qui a entendu le premier peuple de Dieu. C'est-à-dire, ce peuple-là sait parfaitement m'adorer ou m'honorer avec ses lèvres, mais vous connaissez la suite. Et donc, ce n'est pas seulement ça. Et là, il finit en disant « Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui est pur. » Alors, ça rejoint le texte de Jean, de l'évangile cette fois de Jean. « Vous êtes déjà purs, nous sommes déjà purs, je suis déjà pur, parce que j'ai été purifié. » Donc, j'ai pas besoin de lui dire « lave-moi » comme Pierre dans son élan, « lave-moi les mains, la tête et le bec, alouette, tout. » Non, ça c'est fait. Il l'a fait. Il a changé mon identité génétique. J'ai celle de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais j'ai besoin tous les jours de me rendre pur comme lui-même est pur, parce que je marche sur un chemin qui me salit. Alors, j'irai pas plus loin parce que je sais, moi, ce qu'il faut que je fasse pour être un peu plus pur, de plus en plus pur, de plus en plus conforme à mon identité génétique. Et j'ai la prétention de dire que chacun ici, en s'examinant soi-même, le sait aussi. La seule chose que nous savons aussi, parce qu'on a déjà essayé de se rendre pur, dites-moi le contraire, et on n'y est pas arrivé. On sait que c'est très difficilement à notre portée, mais c'est à sa portée à lui. Et c'est pour ça qu'en arrivant à des hommes qui étaient purs déjà, parce qu'ils étaient ses disciples, et parce qu'il en avait fait des enfants de Dieu, il n'a pas dit « lavez-vous les pieds, parce que vous marchez sur un chemin qui vous a sali. » Il l'a fait, lui. Et ma prière, pour moi et pour cette semaine, c'est qu'il me lave toutes les parties du corps que j'ai sali, parce que j'ai besoin d'être ce que je suis déjà. Ce que nous sommes a déjà été révélé, mais, dit le texte, doit parvenir à son accomplissement. C'est-à-dire que j'ai besoin de paraître devant mon Père avec la pureté que Jésus m'a donnée. Alors, je prie pour non pas me salir le moins possible, ça j'ai déjà essayé aussi, ça ne marche pas, mais je prie pour qu'il me montre ce qu'il doit laver. Parce que si j'accepte, et la difficulté, ça a été ça pour les disciples, symbolisé par Pierre en l'occurrence, c'est d'accepter qu'il nous lave. Alors j'ai besoin qu'il me montre où est-ce que c'est sale. Et j'ai besoin qu'il me donne l'humilité de lui dire « Tu es mon maître, tu es mon Seigneur, mais puisque tu as poussé l'amour jusqu'à prendre une bassine, à mettre de l'eau dedans, à prendre une serviette et à t'entourer de ce linge, et puisque tu es prêt à le faire, alors fais-le. Parce que je veux te ressembler et je veux qu'en toi,
nous ressemblions à ton Père.